Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le couple franco-allemand a-t-il encore un avenir au sein de l'Union européenne ? L'analyse de l'historien Georges-Henri Soutou, membre de l'Institut, élu le 8 décembre 2008 dans la section Histoire et Géographie au fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond Barre, le fauteuil numéro 1 de l'Académie des sciences morales et politiques. Historien, ancien professeur d'université à Paris 4 Sorbonne, connu pour ses livres et ses recherches sur les relations internationales au XXe siècle, Georges-Henri Soutou est un grand spécialiste des relations entre la France et l'Allemagne. Sa thèse sur les buts de guerre économique de la Première Guerre mondiale l'a conduit à se spécialiser ensuite sur l'histoire des relations franco-allemandes depuis 1945 et sur l'histoire de la guerre froide. À l'Université de Paris 4, il a été directeur du Centre d'histoire des relations internationales de l'Europe de 1990 à 2002 et directeur de l'école doctorale Monde contemporain jusqu'en 2000. Il est aussi membre du conseil de direction du comité d'études des relations franco-allemandes. Il est la personne tout indiquée au sein de l'Institut, nous semble-t-il, pour nous éclairer sur l'histoire de ce qu'on a appelé communément le couple franco-allemand, de ce qu'on a cru être le véritable moteur de l'Union européenne pendant longtemps. Rappelons que Georges-Henri Soutou est l'auteur chez Fayard de deux ouvrages très importants sur ce sujet. La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest 1943-1990, qui raconte comment ce long conflit global a structuré en fait toute une époque sur tous les plans, culturels, scientifiques, économiques. Un livre paru en 2001 où il s'interrogeait sur le fait que la guerre froide n'avait pas débouché sur une troisième guerre mondiale. Le deuxième livre, encore plus focalisé que le précédent sur le couple franco-allemand, mais qui en parlait bien entendu, s'intitule « L'Alliance incertaine », sous-titre « Les rapports politico-stratégiques franco-allemands de 1954 à 1996 ». Le livre analyse toute l'histoire de ces deux principaux partenaires de la construction européenne avec leurs arrière-pensées divergentes, en particulier sur le plan justement stratégique. Aujourd'hui, Georges-Henri Soutou accepte de faire le point sur cette relation entre la France et l'Allemagne depuis 1996 jusqu'à nos jours. Que s'est-il donc passé ces 20 dernières années entre les deux États ? Qu'est-il advenu de cette alliance que l'historien qualifiait d'incertaine en 2001 ? Merci d'être avec nous, Georges-Henri Soutou. Et pour commencer, une question peut-être un peu générale, un peu historique. Quelles sont les forces profondes à l'origine de ce rapprochement franco-allemand après 1945, dans cette seconde moitié du XXe siècle ?
Alors, elle se situe à plusieurs niveaux. On peut remonter dès le XIXe siècle, si on pense à l'économie et si on pense à la culture, au mouvement intellectuel. On peut démontrer que la France et l'Allemagne, dès la fin du XIXe siècle, sont réciproquement des partenaires commerciaux capitaux et non plus les deux couples France-Grande-Bretagne ou Grande-Bretagne-Allemagne. Sur le plan intellectuel, c'est tout aussi vrai, et ce, malgré deux guerres mondiales. Alors, la deuxième force profonde, c'est justement la conséquence des deux guerres mondiales. Il n'est pas possible, pensent beaucoup de Français et d'Allemands, et pensent également beaucoup d'Européens qui voient avec inquiétude la tension des deux ennemis héréditaires, comme on disait, il n'est pas possible, pense-t-on souvent après 1945, de continuer le cycle des tensions, éventuellement même des conflits franco-allemands. La troisième force profonde, c'est ce qu'on a appelé le mouvement de construction européenne à partir de la Deuxième Guerre mondiale, la conscience que prennent les Européens qu'ils doivent s'unir d'une façon ou d'une autre pour rester significatif dans le monde, surtout dans le climat de guerre froide et d'opposition à l'Union soviétique et de danger soviétique à l'époque, qui s'établit à partir de 1947 ou 1948. D'autant plus que les États-Unis, qui sont indispensables après la Deuxième Guerre mondiale pour aider l'Europe occidentale à financer, l'aider à résister à la pression soviétique, sont très partisans d'une unification européenne ou d'une forte coopération entre pays européens. Voilà l'ensemble des forces profondes qui ont commandé ce rapprochement franco-allemand après, disons, 1945, par étapes, bien entendu. Première étape, ça a été la construction européenne à partir de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui est la première étape. La deuxième étape, après la très difficile affaire de l'armée européenne qui ne plaisait pas à la majorité de l'opinion française, mais enfin il fallait bien réarmer l'Allemagne face à la menace soviétique, ça a été les accords de Paris de 1954 qui ont rendu à l'Allemagne fédérale sa souveraineté, qui ont d'autre part établi son armement dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Ces accords de Paris ont ainsi posé la base du statut de l'Allemagne et d'une bonne partie de l'équilibre des rapports franco-allemands jusqu'à la fin de la guerre froide. Et la troisième grande étape, ça a été bien sûr la politique du général de Gaulle qui a voulu accentuer ce rapprochement et le traité de l'Élysée, traité de l'Élysée franco-allemand de janvier 1963 qui posait les bases. Quand on l'étudie de près, c'était des bases ouvertes mais qui pouvaient conduire à de grands développements en matière de coopération politique, stratégique, militaire et culturelle, pas oublier le volet culturel, entre les deux pays. Et cette base a permis ensuite de construire progressivement, comme on va le voir.
Comment vous qualifieriez-vous la particularité de cette relation franco-allemande sur le long terme, là, sur 50 ans? Et est-ce que cette dénomination de couple franco-allemand qu'on a l'habitude d'utiliser, est-ce qu'elle convient?
Cette dénomination de couple franco-allemand a commencé à apparaître à l'époque du président Giscard d'Estaing, de son partenaire, un bon chancelier Schmitt. Et ensuite, elle s'est imposée dans les médias. Pour une raison probablement assez simple, il se trouve qu'il y a eu pendant longtemps une série de dirigeants français et allemands exerçant le pouvoir à peu près dans les mêmes périodes et établissant un rapport direct important. Ça a été le cas entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Ça a été le cas entre François Mitterrand et le chancelier Kohl. Ça a été le cas entre Jacques Chirac et le chancelier Schröder, pour dire les choses, avec chaque fois d'ailleurs des différences d'orientation partisane, mais qui n'empêchait pas l'entente, la collaboration, avec bien sûr des limites et d'arrière-pensée, mais enfin, le mot couple, là, se justifiait. Bon, comme historien, je ne suis pas totalement enthousiaste parce que le mot couple va probablement trop loin, ne donne probablement pas aux gens la profondeur de réflexion nécessaire. Le rôle des dirigeants n'est pas, au sommet, n'est pas suffisant. L'expression plus savante, si vous voulez, c'est le moteur franco-allemand de la construction européenne. C'est-à-dire que chacun des grands progrès de la construction européenne ou des grands événements de la construction européenne depuis la déclaration Schuman de 1950, et ce jusqu'au traité de Lisbonne, finalement, de 2007, chaque fois a été le résultat, pas uniquement, mais fondamentalement au départ, d'une décision, d'une impulsion, le mot est meilleur, d'une impulsion franco-allemande. Alors, si je devais qualifier sur le long terme cette relation par rapport aux autres pays européens, qu'il ne faut évidemment pas oublier, rien ne serait plus politiquement nocif d'ailleurs que d'oublier les autres, je dirais que la relation ou le couple ou le moteur que voudra franco-allemand, pour employer une expression que les mathématiciens connaissent bien, est à la fois nécessaire mais non suffisante. Elle est nécessaire parce que l'impulsion doit venir de ces deux pays qui, eux deux réunissent quand même un pourcentage de la population et de l'économie de l'Europe tout à fait considérable. D'autre part, elle n'est pas suffisante parce qu'il ne faut pas donner l'impression que les deux capitales imposent ou veulent imposer quelque chose d'autre. Elles ne peuvent d'ailleurs pas le faire d'après les règles mêmes de l'Union européenne ou avant de la communauté européenne, ce n'est pas possible. Une fois de plus, politiquement, ce serait très dangereux. C'est une impulsion. Il faut ensuite des gens qui adhèrent, soit tout le monde, soit au moins des pays, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, selon les cas de figure, selon les problèmes. Et puis ensuite, ça fait boule de neige. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné.
Vous nous décrivez un petit peu comment s'est construit ce moteur franco-allemand à travers l'histoire de la construction européenne. Ce qui est surprenant, ce que le grand public garde toujours en mémoire, c'est comment les adversaires d'hier sont justement devenus des partenaires leaders quand même au sein de la construction européenne. Vous nous avez aussi déjà dit un petit peu dans le début de cet entretien combien aussi quand même les acteurs politiques comptaient dans ce moteur et pas seulement les politiques et les intérêts. Qu'est-ce que vous considérez comme les grands acquis politiques et stratégiques de ce couple franco-allemand? Peut-être qu'on va séparer les choses avant la chute du mur de Berlin et puis après, et on va peut-être s'attarder sur justement ces 30 dernières années et ces dernières années, voire ces derniers mois si on y arrive. Mais peut-être commençons par s'il y a eu, justement, quels sont, à votre avis, les grands acquis de ce moteur franco-allemand avant la chute du mur?
Vous avez parfaitement raison de distinguer la période d'avant 1989-90 et la période d'après. Parce qu'avant 1989-90, l'Allemagne est divisée et les Français ont une arrière-pensée qui est tellement d'ailleurs évidente que ce n'est même pas une arrière-pensée. Les Allemands sont parfaitement conscients. Ils pratiquent cette politique de rapprochement avec l'Allemagne, avec une Allemagne divisée. Une Allemagne qui n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires, une Allemagne dont le statut n'est quand même pas, au niveau mondial, celui de la France. Donc, les Français jouent la collaboration à deux, mais ils sont dans une situation quand même, disons, supérieure, pour dire les choses. Je ne dirais pas dominante, mais incontestablement supérieure. C'est tout à fait différent après 90. Alors, avant 90, quel est l'avantage pour les Allemands dans ce couple franco-allemand? C'est d'abord de retrouver la respectabilité. Parce que pour les autres Européens et pour les Américains, à partir du moment où l'Allemagne et la France s'entendent, eh bien, ça veut dire que l'Allemagne est sur de bons rails, qu'elle ne risque pas de courir Dieu sait quelle aventure ou d'être sensible à un chantage soviétique à cause de sa division. C'est un point qui, à l'époque, était important, même
on
si
l'oublie,
on l'a oublié aujourd'hui, mais il y avait toujours cette menace latente. Donc, la bonne entente franco-allemande, c'était la paix dans les ménages en Europe, c'était la certitude que l'Allemagne ne serait pas tentée d'aller brouter vers l'est des prairies dangereuses, et inversement, alors ça, c'était pour les Allemands le premier acquis, le retour à la respectabilité. D'autre part, pour les Français, c'était, si vous voulez, accroître le potentiel français, puisqu'on se mettait dans la position où la France conduisait quand même l'attelage franco-allemand, accroître le potentiel français pour pouvoir constituer l'Europe davantage dans le sens des intérêts français. Je prends un exemple, la politique agricole commune. Bon, les autres Européens, au départ, n'en voulaient pas. La France, lorsqu'elle a signé le traité de Rome en 1957, c'était une économie pour laquelle l'agriculture comptait encore énormément. L'Europe était un débouché qu'il fallait organiser selon les vues françaises. Si l'Allemagne n'avait pas accepté un système qu'elle finance et qu'elle a beaucoup financé d'ailleurs, ça ne marchait pas. Donc les Français, il y avait un intérêt économique très concret. Il y avait d'autre part des intérêts plus généraux qui étaient de constituer une Europe plus indépendante des États-Unis que la vision purement atlantiste ne l'aurait comporté. Pour ça, il fallait aussi que Paris et Bonn s'entendent.
Et c'est aussi encore la France qui
tirait un peu l'Allemagne vers elle. Les Allemands ne l'acceptaient qu'en partie parce qu'ils ne voulaient pas non plus se fâcher avec les Américains. Ils jouaient un jeu assez équilibré. Mais enfin, il est absolument évident que ces aspects économiques, politiques, y compris au sens stratégique du terme, étaient ce qui intéressait les Français dans l'affaire. C'était l'intérêt français.
Donc là, c'est les grands acquis politiques de cette période avant la chute du mur.
Ça a marché comme ça.
Ça a marché comme ça. Peut-être un petit mot de ce traité de l'Élysée dont vous parliez avant qu'on passe à la période après le mur et au temps de la réunification. La France et l'Allemagne sont-ils, votre réponse d'historien, sont-ils parvenus à une communauté stratégique qui était souhaitée quand même dans ce traité de l'Élysée dont vous avez parlé, qui a été signé donc il y a très longtemps, il y a 48 ans, par De Gaulle et Adenauer, mais d'après ce que moi j'ai compris, mais vous allez nous éclairer davantage, n'a pas donné pleinement ses fruits pendant cette période. Pourtant, il n'a pas disparu. Alors, est-ce que c'était un acte manqué au sens psychanalytique du terme, mais un échec total, ou une première base qui n'a pas tout donné?
Il y a un peu de psychanalyse aussi, n'est-ce pas? Dans la mesure où, bien entendu, les Français et les Allemands avaient des intérêts objectivement convergents en matière stratégique, c'est-à-dire rester libres face à la pression soviétique, enfin,
bien c'est
de dire en une phrase. Bon, en même temps, les Français considéraient qu'ils ne voulaient pas surtout à partir de la Ve République et du général de Gaulle, qui ne voulait pas être englobé dans un ensemble atlantique où la France aurait perdu sa liberté d'action, alors que pour les Allemands, il n'était absolument pas concevable de se séparer des États-Unis, qui étaient quand même le garant de leur sécurité dans la guerre froide, infiniment plus que la France.
Du temps du blocus de Berlin,
etc. En 1964, le 1er octobre 1964, la France met en service son premier escadron de bombardiers Mirage 4 porteurs de la bombe atomique. Il y en a quatre. À la même époque, les États-Unis doivent avoir à peu près 10 000 ogives nucléaires pouvant tomber sur l'Union soviétique. Donc là, le rapport est quand même tout à fait net. Et les Allemands ne veulent pas choisir Paris contre Washington. Ils ne peuvent pas le faire. Ça, c'est évidemment l'arrière-pensée. C'est même pas du non-dit, ça a été dit dans les discussions internes franco-allemandes. Alors, dans quelle mesure, avant 89, on a obtenu ou on n'a pas obtenu les résultats ? On n'a certainement pas obtenu ce que le général de Gaulle avait en tête lors de la signature du traité de l'Élysée. Bon, en même temps, l'idée d'une communauté stratégique éventuellement militaire franco-allemande n'a pas été totalement abandonnée par la suite, ça a été récurrent. D'abord parce que les Allemands n'ont jamais été totalement satisfaits par la stratégie américaine qui visait à essayer, en cas de conflit en Europe, de régler d'abord les choses sur le terrain avec les armes conventionnelles et de ne recourir aux armes nucléaires qu'après un certain délai. Ça se comprend quand on est à Washington, parce que la guerre nucléaire toucherait le territoire américain. Évidemment, ça se comprend moins quand on est à Bonn, parce que les quelques jours de bataille de type classique à la frontière entre les deux Allemagnes se traduiraient par la dévastation de la moitié du pays, par l'incertitude totale. Donc, cet intérêt subsistait. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais il y a eu des moments de désaccord entre Bonn et Washington plus fréquents qu'on ne croit aujourd'hui. Tout à fait. Sous le chancelier Schmitt, sous le chancelier Kohl, il y a eu des moments de profonds désaccords sur la politique envers l'Est, sur la stratégie entre Bonn et Washington. Et chaque fois, aussi bien le chancelier Schmitt avec le président Valéry Giscard d'Estaing, en 1980, donc juste avant la fin du septennat de Giscard d'Estaing, que François Mitterrand et le chancelier Kohl, dans les trois dernières années qui ont précédé la réunification, ont pensé à réactiver d'abord le traité de l'Élysée. Il y a eu une première réactivation du traité de l'Élysée en 1982, entre le président Mitterrand et les chanceliers Schmitt, mais ça avait déjà été préparé par Valéry Giscard d'Estaing, créant un conseil stratégique franco-allemand, réactivant ce nombre de choses. En 88, entre François Mitterrand et le chancelier Kohl, il y a eu de nouveau un approfondissement avec un conseil stratégique militaire franco-allemand qui a livré des études réelles, dont on parlera du résultat tout à l'heure. On a d'autre part, c'est moins voyant, mais enfin, dès les années 60, des unités allemandes sont venues s'entraîner en France. Il n'y a pas eu d'incident. Je tiens à faire remarquer que dès 1963, des unités de la Bundeswehr sont venues s'entraîner dans la région de Reims avec des dépôts de munitions, etc. Il n'y a jamais eu d'incident. Il y a eu des fabrications d'armements en commun.
Il y avait une coopération militaire.
Une coopération militaire dans le domaine des matériels, dans le domaine des exercices, de l'entraînement. Les forces françaises en Allemagne, ce qu'on oublie, tant qu'elles y ont été jusqu'à la fin de la guerre froide, manœuvraient avec les forces allemandes. Il y avait cette vie quotidienne des armées qui conduisait à un rapprochement. D'autre part, il y a eu, à partir de 1986, par la volonté du chancelier Kohl, qui trouvait que les États-Unis prenaient moins en compte les intérêts stratégiques de l'Europe occidentale. Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985. Les États-Unis commencent à négocier avec lui. Les Allemands ont l'impression que les États-Unis et les Soviétiques pourraient conclure des accords stratégiques, en quelque sorte, sur leur dos. Donc on crée, en 1988, cette fameuse brigade franco-allemande, qui existe toujours, qui est un extraordinaire laboratoire qui a d'ailleurs très bien marché. Ses chefs successifs ont obtenu une véritable intégration, y compris dans l'usage de la langue, la connaissance de la langue du partenaire, etc., le travail en commun. Cette brigade a d'ailleurs été, si je me souviens bien, engagée à un moment donné au Kosovo et ont très bien fonctionné. Et cette brigade...
La première fois d'ailleurs que l'Allemagne s'est engagée à l'extérieur, a perdu un peu de son pacifisme entre guillemets.
Mais c'est l'engagement de l'Allemagne au Kosovo en 1999 a été une date très importante parce que, comme vous le dites très justement, c'était une opération dans le cadre de l'Alliance Atlantique, mais hors du territoire allemand, ce qui posait un problème constitutionnel. Il a même fallu une décision de la Cour constitutionnelle ou du tribunal constitutionnel de Karlsruhe pour pouvoir autoriser cette opération. D'autre part, la brigade franco-allemande, c'était la seule unité allemande qui n'était pas intégrée dans l'Alliance Atlantique, dans l'OTAN. Toutes les autres unités allemandes étaient intégrées dans l'OTAN. Chancelier Kohl, c'était pour lui l'un des sens. Il y en avait deux. Deux sens à l'opération brigade franco-allemande. D'une part, franco-allemande, et d'autre part, une unité des régiments allemands non intégrée
à l'OTAN.
Dans l'OTAN. Ce qui était une façon de dire aux Américains, vous voyez, nous ne sommes pas forcément toujours intégrés dans l'OTAN. À l'époque, politiquement, ça avait beaucoup de signification. Bien entendu, tout ça a été complètement, bon, pas remis en cause, pas du tout, mais a pris un autre sens à partir de la réunification de l'Allemagne.
C'est voilà, donc là, après la réunification de l'Allemagne, la chute ensuite de l'Union soviétique, de la politique aussi des armements nucléaires, les problèmes de sécurité se sont posés en d'autres termes, et donc l'Allemagne, comme la France, comme l'Europe, comme l'Union européenne, ont décidé d'opter pour de nouvelles stratégies communes face à, alors quel danger là, un autre, mais il y a eu là encore une nouvelle façon de traiter ces questions de sécurité. Et comment est-ce que cette rivalité franco-allemande, un petit peu, dont vous nous avez parlé, vous nous avez dit tout à l'heure que la France tirait un petit peu à elle la couverture, disons, de la conduite de ces affaires de sécurité et de ces affaires militaires, là, dans le contexte de la réunification allemande, et puis au fil des années, dans le contexte d'une Allemagne réunifiée, plus puissante et au cœur de l'Europe, justement, comment s'est inscrite cette nouvelle collaboration militaire alors que les enjeux et les positions, tout simplement, avaient changé.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la première conséquence de la réunification dans le domaine qui nous occupe, on voit très bien en lisant les détails des négociations, ça a été mené, au moins dans le début de la négociation, en parallèle, en quelque sorte. Ça a été ce qui va être en 92 le traité de Maastricht. Les Français disant, je résume, enfin disant aux Allemands en 90, à partir du moment où la réunification était proche, inéluctable, etc. Écoutez, on vous soutient, mais il faut parallèlement approfondir le processus européen. Ce dont on parlait d'ailleurs depuis 1986, donc déjà bien avant la réunification. Et dans le traité de Maastricht, il n'y a pas simplement le traité politique, il n'y a pas seulement l'euro, on a retenu essentiellement l'euro, il y a aussi la politique européenne de sécurité et de défense, la politique extérieure de sécurité commune, pour la politique, voilà, extérieure,
politique
et de sécurité commune,
sécurité
la PESC. Et là, eh bien, c'est un compromis. La France aurait voulu créer une défense européenne en dehors ou à côté de l'OTAN, l'Allemagne souhaitait qu'elle ne s'écarte pas de l'Alliance Atlantique. Eh bien, on a fait les deux. C'est-à-dire qu'il a été admis que cette PESC existerait par elle-même et se situerait dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Alors, cela peut paraître extrêmement abstrait. Dans la pratique militaire, ça peut être rendu assez concret parce que les états-majors sont, comme on dit aujourd'hui, modulaires. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement habitués à changer de configuration selon le type d'opération, selon le niveau où on se trouve, selon les partenaires qu'on a ou on n'a pas. Pour un état-major moderne, fonctionner pour l'Union européenne ou fonctionner pour l'OTAN ou fonctionner en tandem pour les deux, avec en plus une direction nationale pour certaines opérations à Paris ou à Berlin, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Il y a des problèmes techniques militaires que les profanes ne connaissent pas, mais ça peut se régler. Hein, ça, c'est pas un problème. Simplement, le choix politique reste toujours, bien sûr, la position par rapport à l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Français ont progressivement mis de l'eau dans leur vin. En 1996, le président Chirac, à l'époque, a envisagé déjà que la France pourrait rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN qu'elle avait quitté en 1966. Ça ne s'est pas fait, finalement, pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas entrer ici, mais on a pris, malgré tout, à cette époque-là, au Conseil de l'OTAN à Berlin en juin 1996, toute une série de décisions sur lesquelles on fonctionne d'ailleurs au fond encore aujourd'hui, y compris en ce moment contre la Libye, n'est-ce pas, permettant en quelque sorte d'associer, sans trop poser de problèmes théologiques, ce que l'Union européenne a ou n'a pas, enfin on y reviendra, comme organisme de défense, donc le franco-allemand aussi, et en même temps l'Alliance Atlantique. Étant entendu qu'il doit y avoir une transparence entre les états-majors des deux côtés, qu'on peut fonctionner sous double casquette, c'est-à-dire casquette OTAN, casquette Union européenne, et que les États-Unis, disons, et donc l'OTAN, pouvaient accepter que, le cas échéant, l'Union européenne puisse mener certaines opérations en utilisant des matériels de l'OTAN sans que les États-Unis y participent. Par exemple, les satellites d'observation, par exemple, les avions radars, les bases logistiques, etc. Toutes choses que les Européens ont eu beaucoup de mal à dupliquer, à reproduire. Condition que les Américains acceptent évidemment que l'OTAN fournisse cette aide, ça permet de donner à une force européenne l'environnement nécessaire, même si les États-Unis ne sont pas directement partie prenante. Alors, toute cette série d'accords assez techniques permettait au fond de contourner ce qui avait été le grand obstacle qu'on a appelé tout à l'heure, l'Allemagne favorable à l'Alliance Atlantique et la France très réservée à l'égard de l'Alliance Atlantique. Ça s'est traduit dans un document franco-allemand de décembre 1996, baptisé « Concept stratégique franco-allemand », qui réglait, enfin, au moins sur le papier, mais enfin c'est un document un peu théorique, mais qui réglait quand même toute une série de problèmes. Les Allemands acceptaient la dissuasion nucléaire à la française, parce que ça, souvent été un problème, n'était pas favorable à la doctrine française de dissuasion du faible au fort, comme on dit, menaçant l'adversaire de représailles immédiates, qui n'est pas du tout la doctrine américaine plus prudente. Bon, là, il y a eu un accord pour ne pas faire de cette question nucléaire
un obstacle, en fait.
Et puis, on s'est également mis d'accord sur ce que je vous ai indiqué, la possibilité de contourner le problème de l'OTAN par des participations croisées, par l'utilisation de moyens de l'OTAN, éventuellement sans les États-Unis, par les mises en place d'états-majors sous double casquette, etc. Alors, l'étape suivante, c'est le sommet franco-britannique de Saint-Malo en 1998, où l'Angleterre de Tony Blair décide de se rapprocher de l'Europe. Les Français ont été, semble-t-il, assez habiles, ont obtenu à cette occasion de l'Angleterre une participation à l'effort de défense européen qu'elle n'avait pas en tête au départ. Mais en échange, bien entendu, les Anglais ont veillé à ce que ça ne compromette pas l'Alliance Atlantique. Alors, cela s'est traduit par toute une série de sommets européens dont nous n'allons pas faire la liste. Ça s'est poursuivi jusqu'à, finalement, la conclusion du traité de Lisbonne, avec la mise en place d'un conseil militaire au niveau de l'Union européenne représentant les ministres de la Défense, d'un état-major de planification européen. Mais je dis bien de planification, les opérations devront être en principe commandées par les états-majors OTAN. Les Anglais et les Américains ne souhaitaient pas qu'il y ait une duplication à ce niveau-là. Et puis progressivement, on a admis que certaines opérations de l'Union européenne pouvaient être menées sous le commandement d'un des pays européens qui en prendrait la tête.
C'est une grande évolution.
L'opération Artemis au Zaïre, à la fin des années 90, qui était commandée par les Français, mais au titre de l'Union européenne, et avec la mise en place d'une cellule opérationnelle au sein de ce état-major de planification européen, permettant donc toujours de contourner un peu le problème de l'OTAN. Alors peut-être pour résumer maintenant la situation où on en est aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, où en est cette défense européenne et comment le moteur franco-allemand a-t-il joué son rôle ou pas, freiné ou...
Alors il y a actuellement, parce que on tient compte de ce qui s'est fait avec le traité de Lisbonne, n'est-ce pas ? Il y a actuellement une agence européenne de l'armement. Bon, cette agence européenne de l'armement, héritière d'une organisation précédente qui s'appelait l'OCAR, qui avait été mise en place après le traité de Maastricht, est censée coordonner et développer des programmes d'armement européens. Il faut savoir ici, c'est la limite de l'effort européen et également de la coopération franco-allemande, que les Américains dépensent deux fois plus que l'Union européenne en matière de recherche-développement pour les armements. Et qu'en plus, les dépenses européennes sont souvent redondantes. On étudie une vingtaine de blindés différents chaque pays voulant maintenir sa production nationale de blindés. Le grand projet commun en ce moment, c'est l'avion de transport, l'Airbus 400, si je me souviens bien, qui a beaucoup de mal à prendre l'air. C'est un programme qui bat de l'aile, si j'ose dire ça, pour un programme aéronautique. Mais enfin, il y a cette organisation. Il y a d'autre part, au niveau des instances européennes...
En dehors de l'Agence de l'armement. Donc là, on est dans les institutions...
Les institutions européennes, on a maintenant... Évidemment, un service diplomatique européen, mais enfin,
c'est tout jeune, c'est
son,
avec...
disons que son efficacité reste encore à prouver. Il y a un état-major de planification, il y a une pratique des opérations extérieures qui fonctionne. On l'a vu fonctionner en particulier au Kosovo, on l'a vu fonctionner dans la région des Grands Lacs. On le voit fonctionner en ce moment au niveau maritime contre les pirates somalien. C'est l'opération Atalante, si je me souviens bien, mais je me trompe peut-être sur le nom de code de cette opération, menée ensemble par des bâtiments des différentes marines européennes.
Européennes contre les pirates.
Chaque fois avec un système de commandement adapté. On peut dire qu'actuellement, le système est au point pour ce qu'on appelle les opérations de Petersberg. Les opérations de Petersberg ont été définies par l'Union européenne en 1996. C'est une ville à côté de Bonn en Allemagne. Bon, elle prévoit ces missions de Petersberg. On parle de missions de Petersberg. Prévoit le maintien de la paix et le rétablissement de la paix, le cas échéant, l'aide humanitaire. C'est-à-dire que dans une région de crise, on peut envoyer des effectifs pour maintenir la paix entre les belligérants, pour apporter une aide humanitaire, ou éventuellement, comme au Kosovo par exemple, pour rétablir la paix si dans une guerre civile, un camp menace l'autre. Ce sont des opérations importantes mais limitées, quelques milliers d'hommes ou quelques centaines d'hommes chaque fois. Là, on peut dire que le système qui existe, où chaque fois il y a une importante contribution franco-allemande, fonctionne. Il y a d'ailleurs, outre les éléments proprement nationaux, il y a l'Eurocorps qui a été créé en 1994, qui comprend des unités françaises, allemandes, mais également belges et espagnoles. D'abord allemandes, françaises, mais également belges et espagnoles, qui est au fond une sorte de première unité européenne habituée à s'entraîner ensemble, à collaborer ensemble. C'est intéressant de savoir que la langue de travail de l'Eurocorps, c'est l'anglais. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, comment voulez-vous ? Bon. De toute façon, les procédures, les méthodes de commandement, d'informatisation, etc., sont calquées sur celles de l'Alliance Atlantique. Ça ne peut pas faire autrement. On ne peut pas demander aux gens de s'entraîner pour
plusieurs choses
différentes. Et ça permet d'assurer les états-majors à double casquette, la transparence entre les états-majors, etc. Tout ça a été facilité politiquement par le fait que la France a décidé de rejoindre le commandement de l'Alliance
Alors,
Atlantique
c'est
en 2009.
C'est récent.
C'est tout récent.
C'est important, c'est changement complet
voilà.
Quand même.
Alors, le point suivant, jusque-là, la France avait dit « Nous reviendrons dans le commandement intégré de l'Alliance Atlantique si on met en place une personnalité européenne de défense réelle. » C'était la position de Jacques Chirac en 1996. Et puis finalement, on est rentré en 2009 en disant, à partir du moment où nous rentrons, on va mettre en place, une fois que nous aurons accompli ce pas initial, on mettra en place une personnalité européenne de défense. Bon, alors jusqu'à maintenant, il faut bien dire que ça ne s'est pas fait. Pour toute une série de raisons, il est évident qu'à partir du moment où nous étions rentrés dans l'Alliance Atlantique, il y avait moins de pression pour mettre en place cette structure européenne plus autonome, même au sein de l'Alliance Atlantique, finalement. D'autre part, l'Allemagne a beaucoup évolué. L'Allemagne actuelle n'est plus celle du chancelier Kohl, pour parler brutalement, ni même celle du chancelier Schröder, qui, avec Jacques Chirac, avait accompli toute une série de pas dans le sens que nous avons décrit tout à l'heure. Et d'autre part, pour en arriver à la situation actuelle, on arrive quand même à constater quelque chose qui est fondamental. Aucun système de défense, aucun système d'alliance, aucun système superposé d'état-major, etc., ne fonctionne réellement si on n'est pas d'accord sur les objectifs essentiels. Or, malheureusement, la crise libyenne a montré une divergence entre Paris et Berlin fondamentale, puisque Berlin s'est abstenu lors du vote de la résolution des Nations Unies que la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, au contraire, votaient. Et non seulement Berlin s'est abstenu, mais Berlin ne participe pas, comme on le sait, aux opérations actuelles contre, comme on voudra, la Libye. Mais en plus, Berlin a retiré du commandement OTAN ses bateaux en Méditerranée. Il faut être absolument sûr de ne pas, être
utilisé,
impliqué, même indirectement. Bon, alors, je sais bien qu'en échange, les Allemands ont renforcé leur participation aux opérations en Afghanistan pour montrer qu'ils restaient quand même solidaires. Mais enfin, voilà une opération considérée qui est objectivement importante, qui est sérieuse, qui est grave, avec un désaccord majeur entre Paris et Berlin.
Comment vous analysez cette divergence? Parce que là, c'est presque pour l'Allemagne sortir complètement de l'ensemble européen.
Il est évident qu'il faut, pour une opération militaire importante, un accord politique fondamental.
Bien sûr.
Dans le cas de la Libye, de toute évidence, il n'existe pas, puisque à l'ONU, les deux pays ont pris des positions divergentes. Alors, avec le recul, on pourra évidemment se demander si c'était de la part de Berlin un refus de type absolu, pacifiste, etc., de ne pas être impliqué, ou si c'était le résultat d'une réflexion sur le fond. Il est évident que si l'opération se termine bien, c'est-à-dire si la Libye n'explose pas et qu'un gouvernement démocratique, libéral, soucieux des droits des femmes, prêt à reconnaître l'État d'Israël et non hostile aux Occidentaux, prend le pouvoir en Libye, l'Allemagne ne pourra que regretter de ne pas avoir participé à cette opération. Si la Libye explose et s'enfonce dans un désordre à long terme comme la Somalie, ou si des groupes islamistes prennent le pouvoir, les applaudissements seront peut-être moins nets. Donc il est trop tôt pour dire le jugement que l'histoire portera là-dessus. On est obligé de constater, ça c'est purement objectif, que dans cette crise incontestablement grave, Paris s'est entendu avec Washington et avec Londres, c'est une vieille tendance historique finalement, avec des arguments bien sûr en faveur, et que tout l'échafaudage européen constitué, y compris le service diplomatique européen, y compris tous les mécanismes du traité de Lisbonne, etc., sur le plan franco-allemand, ça n'a rien donné.
Pour revenir au moteur franco-allemand et de la construction de l'Europe, il y a une autre question en ce moment cruciale, qui est celle de la crise économique et de la crise de l'euro. Alors comment, justement, là encore, les divergences peuvent faire éclater ce moteur franco-allemand, ou peuvent-ils contribuer à un éclatement possible, et quel est en fait votre avis?
Voilà, jusqu'à maintenant, observons ce qui s'est passé. Il y a eu des divergences, en particulier au début de la crise. Madame Merkel hésitait à intervenir pour sauver les banques d'abord, puis finalement elle est intervenue. Elle hésitait à intervenir pour sauver la Grèce, puis finalement on s'est mis d'accord. Elle hésitait pour mettre en place un fonds de financement européen pour d'autres crises éventuelles. Finalement, on l'a fait. Bon, chaque fois, il y a eu des bisbilles franco-allemandes, mais chaque fois, ça a marché jusqu'à maintenant. Après tout, c'est comme la vie de couple, puisqu'on a repris l'image du couple. Bon, c'est une construction, il peut y avoir des tensions, tant que ça ne se termine pas par un divorce, ça continue. Alors, il y a un grand débat. Certains disent, cette politique de l'euro fort, pour parler brutalement, et en même temps, cette réticence à aider les pays en difficulté, la volonté d'accroître la discipline budgétaire, le pacte de compétitivité qui se substitue au pacte de convergence de Maastricht, qui n'avait pas été vraiment respecté. Tout ça, c'est, disent les uns, au bénéfice de l'Allemagne, qui, grâce à l'euro fort, exporte, puisqu'elle exporte énormément, et reçoit beaucoup d'argent, et paie ses importations beaucoup moins cher, puisqu'elle bénéficie de l'euro fort. La France, qui est moins bien placée pour exporter, paie ses importations finalement peut-être moins cher, mais elle a du mal à exporter. Donc le système n'est pas vraiment au bénéfice de l'économie française. Alors ça, c'est une vision qui, à terme, peut conduire à l'éclatement. Si l'euro profite uniquement à l'Allemagne et pas aux autres partenaires européens, à terme, il y aura un problème. Ceci dit, la situation de l'Allemagne est loin d'être aussi brillante qu'on le dit. Elle est peut-être meilleure que celle des autres, mais elle n'a pas encore retrouvé son niveau économique d'avant la crise. Elle exporte près de la moitié de sa production. D'une certaine façon, ce n'est pas totalement sain. C'est une forme d'appauvrissement. D'autre part, le niveau de vie en Allemagne est élevé, mais il stagne depuis longtemps. Les charges, les impôts sont élevés. Le chômage a beaucoup baissé ces derniers temps. Ça, c'est un point positif. Mais les dernières élections montrent qu'il y a du mécontentement dans la population allemande. Les prochaines élections au niveau fédéral sont actuellement totalement imprévisibles. On ne peut pas être certain que les gouvernements allemands poursuivront toujours la politique, en gros, de rigueur de Mme Merkel. Quant à la France, elle a certainement tout intérêt, comme les autres pays européens, à rester dans la zone euro. Il n'est pas concevable de quitter la zone euro. Est-ce que la France peut régler tous ses problèmes avec un taux de croissance qui n'atteint pas 2% par an, qui traîne entre 1 et 1,5% par an sur le long terme? J'avoue que j'ai des doutes. Le taux de croissance allemand est actuellement supérieur. Il y a une divergence qui est, à mon avis, très dangereuse pour la cohésion, même compliquée par des crises, mais la cohésion fondamentale du couple franco-allemand dans le domaine économique et monétaire. D'autant plus que d'énormes problèmes se posent. La révision de la politique agricole commune, qui consomme à peu près 50% du budget de l'Union européenne et que l'Allemagne ne veut pas continuer à financer indéfiniment.
Depuis le début, j'allais dire.
Oui, mais là,
maintenant, c'est vraiment un refus.
2014, je pense qu'on verra des prochaines révisions, on verra des changements profonds. Et d'autre part, il y a le problème de l'énergie.
Alors ça, c'est le dernier grand problème qui se pose à nous tous depuis, en plus, la catastrophe naturelle qui a touché le Japon et l'effondrement des centrales nucléaires de Fukushima, dont actuellement, on est au moment de cet enregistrement, avec des centrales dont les fuites radioactives par l'eau se poursuivent. Donc Angela Merkel a pris très vite position pour un chef d'État en indiquant qu'elle arrêtait le programme nucléaire civil allemand. De façon, sa réponse à cette catastrophe a été surprenante de rapidité.
Oui, mais elle a arrêté 7 réacteurs qu'il était question de
déjà
redémarrer.
D'arrêter.
Oui,
elle
avait décidé de les prolonger une dizaine d'années et puis finalement, il reste arrêté. Cette décision a été attaquée par le producteur d'énergie concerné. Ça va probablement se terminer à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe parce qu'il y a une question de légalité qui se pose. Donc, on verra. L'Allemagne est obligée de respecter les questions de noix, peut-être plus que dans d'autres pays. Donc, il faut attendre. Enfin, fondamentalement, l'Union européenne n'a jamais eu de politique de l'énergie. Elle commence avec le traité de Lisbonne de se doter d'une politique de l'énergie, puisqu'il est entendu que l'énergie fait partie des domaines de la politique extérieure commune. Bon, avec des possibilités d'action. Mais cela ne s'est pas encore traduit par la mise en place d'un dispositif européen commun face aux fournisseurs d'énergie. Qui avons-nous actuellement ? Bien, nous avons la Russie, qui fournit déjà 40% du pétrole et du gaz qu'utilise un pays comme l'Allemagne fédérale. Nous avons le Moyen-Orient, qui est en crise, et donc les quantités et les prix du pétrole et du gaz venant du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, sont un peu en pointillé pour le moment, pour dire le moins. Et nous avons le nucléaire. Il me paraît évident qu'on ne construira plus une nouvelle centrale nucléaire en Europe avant longtemps. Alors je ne dis pas que ce soit une décision sage, mais enfin politiquement je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour la France, bien entendu. Ça va être très probablement un motif supplémentaire de tension entre Berlin et Paris, parce qu'il y a une divergence nette de politique énergétique. Et d'autre part, il y a beaucoup de répercussions que l'on ne peut pas encore apprécier aujourd'hui, parce que les industriels allemands, leur organisation patronale, avaient dit il y a quelque temps, au moment justement où on se demandait si on allait prolonger ou pas la vie des centrales nucléaires allemandes. Les industriels avaient dit que s'il n'y avait pas du courant à prix acceptable en Allemagne, ils seraient obligés de délocaliser leur production. Là, le modèle allemand de délocalisation stratégique maîtrisée. Certaines usines, pas d'autres, on garde en Allemagne toujours beaucoup de choses, on garde une main-d'œuvre industrielle, etc. Si ça doit être abandonné à cause du prix de l'énergie, ça posera aux Allemands d'énormes problèmes. Et je suis incapable de vous donner le résultat, finalement, de cette tension. Mais pour résumer, finalement, l'impulsion franco-allemande, en dehors du règlement des crises les unes après les autres,
Parce que là, on arrive quand même à une succession de problèmes majeurs.
Non, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Bon, il y a eu une collaboration franco-allemande jusqu'à la mise en place du traité de Lisbonne. Bon, puis depuis, on est passé aux crises successives qu'il a fallu régler, y compris actuellement la crise libyenne, ou qu'il a fallu gérer en tout cas. Bon. Alors, actuellement, il n'y a plus d'impulsion centrale pour un nouveau projet européen. On essaie de colmater, de réparer au coup par coup, n'est-ce pas ? Sur le plan monétaire, maintenant sur le plan de l'énergie, sur le plan de la politique extérieure et de sécurité avec l'affaire libyenne. Si on fait l'addition de tous ces problèmes et de l'absence pour le moment, je dis bien pour le moment, de vue convergente franco-allemande, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour, disons, la Libye, l'Afrique du Nord, que ce soit pour les relations avec la Russie, encore un autre point où il y a plutôt compétition, rivalité entre Paris et Berlin, que coopération pour discuter avec les Russes sérieusement, sans compétition fratricide entre pays européens, on est probablement un point bas du couple franco-allemand. La coopération franco-allemande, c'est tout à fait incontestable. C'est le résultat de la crise économique la plus grave qu'a connue l'Occident depuis les années 30. On sous-estime parfois la gravité de la crise, le temps qu'il faudra pour que l'Europe en particulier s'en sorte.
Votre avis justement d'historien sur ce long regard du XXe siècle de ces crises, et là on est dans le XXIe, vous nous rappelez que c'est une crise majeure qu'on affronte, et je sais bien que l'historien ne se prête pas à des jeux d'avenir, mais comment peut résister justement ce moteur franco-allemand à l'ère d'avoir très bien vécu, ou disons d'en avoir eu d'existence pleine et entière, que quand justement l'Union européenne était en phase positive de construction face aux crises. Aux crises majeures, hein, j'entends. On voit qu'il se fissure.
Il est tout à fait évident que, comme disent les Anglais, le momentum, c'est-à-dire le mouvement en avant, le mouvement acquis de l'Union européenne en ce moment est faible. Hein. On gère les crises. Il est d'autre part, si on veut être un peu cynique, tout à fait clair que la coopération franco-allemande marchait mieux quand il y avait soit la guerre froide, avec une menace commune,
voilà,
soit au moment de la réunification, la nécessité de tout remettre en ordre et donc d'accélérer la construction européenne pour rééquilibrer, pour parler très vulgairement, rééquilibrer l'unification franco-allemande. Maintenant que l'unification franco-allemande est acquise et qu'on est entré dans une période de crise de toute nature, y compris stratégique, géopolitique, etc., on constate que ça ne marche plus.
Est-ce qu'on peut penser qu'un moteur, disons un binôme, un partenariat en binôme comme ça, n'est pas en fait la bonne solution pour une Europe à 27 ?
Eh bien justement, je crois l'avoir dit tout à l'heure, le couple franco-allemand est toujours nécessaire, mais n'est plus suffisant. Donc, étant donné l'ampleur des problèmes, il faut d'abord respecter les structures même de l'Union européenne, qui prévoit des coopérations renforcées, qui prévoit dans le domaine de la défense une coopération structurée permanente. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, qui figure dans le traité de Lisbonne, qui permet à un nombre X de pays, parce qu'une coopération renforcée, c'est au moins 9 pays avec l'accord des autres, une coopération structurée permanente, c'est éventuellement 2 pays, ou plus bien sûr, qui le décident, qui l'indiquent simplement à l'Union européenne, qui n'a pas besoin de leur donner un accord. Et c'était spécifiquement prévu pour la défense. Donc on pourrait, à partir de ce qui existe, s'il y en avait la volonté politique, approfondir la coopération militaire franco-allemande. Mais il me semble que ce serait tout à fait inopérant, voire désastreux, d'imaginer de faire ça sans les Anglais, sans les Italiens au minimum, et sans d'autres d'ailleurs, tout simplement parce que les moyens militaires sur le terrain. Regardez actuellement en Libye, n'est-ce pas, le rôle des Italiens au moins indirect, le rôle très actif des Britanniques, montre très bien qu'il ne serait pas réaliste de se limiter au couple franco-allemand.
Et inversement, de se limiter à un autre couple.
Je pense que l'idée même de construction européenne, si elle doit avoir un sens, si on veut éviter l'éclatement, doit faire prendre la notion de couple avec beaucoup de précautions. Maintenant, ce sont des moteurs initiaux. Il faut bien lancer une impulsion. Si on peut le faire à trois, à mon avis, c'est mieux qu'à deux, et ainsi de suite. Mais surtout, il faut relativiser cette notion de groupe, même si dans la réalité, tout ça est préparé, bien entendu, de façon très traditionnelle. Avant d'être mis sur la table à Bruxelles, il y a des préparatifs antérieurs. Mais je conseille d'essayer de faire fonctionner le traité de Lisbonne, malgré les difficultés qu'il présente, y compris le nombre élevé de 27 pays, vous avez fort justement rappelé. Les structures ont été prévues pour ça dans le traité, on ne les a jamais encore vraiment fait fonctionner. Et je rappelle que pour la défense, qui est quand même un point très sensible, ça engage la vie des hommes, bon, on a, avec la coopération structurée permanente, la façon très souplement de faire des choses avec les partenaires désireux de le faire. Et là, c'est une question de volonté politique et donc de perception en commun des problèmes qui se posent et qu'il faut essayer de résoudre.
Merci, Jean-Ri Soutou, de nous avoir donné votre point de vue dans cette fin d'entretien sur l'avenir du couple franco-allemand, sur l'idée même d'un moteur entre deux États, de nous avoir présenté un peu toutes ces difficultés majeures qu'affronte ce qu'a été, peut-être, si on parle au passé, ce moteur franco-allemand, et puis de nous avoir montré combien il était difficile d'imaginer, d'inventer cette nouvelle Europe à 27, quand même face à des crises majeures, économiques, nucléaire, même si pour l'instant elle est loin de nous, mais le risque est pris en compte aujourd'hui vraiment de façon majeure par les populations comme par les élites politiques. Merci aussi de vous être prêté à ce grand tour de force historique et aussi de votre regard sur l'histoire immédiate.
Merci de votre accueil à Canal Académie.